Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Vous êtes sur le 102.2, Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est Lilith, Martine et les autres de 5h à 6h. Aujourd'hui, c'est chaud chaud l'actualité, parce qu'on va vous parler de plein de choses qui se passent en ce moment. Donc, dans l'ordre, on accueille le collectif de soutien aux sans-papiers. Ensuite, on écoutera un petit montage d'une émission tirée d'une émission de copines de Marseille qui s'appelle Le Gang des Gazières, qui passe sur Radio Galère. Et c'est un montage voilà, qui traite un peu des questions du moment, la loi El Khomri, de la précarité, etc. Après, on aura une petite discussion sur le mouvement en cours et sur le syndicalisme. Enfin, tout ça ponctué de musique, on fera un petit point en fin d'émission sur la loi de la pénalisation des clients de la prostitution qui est passée là récemment et sur la situation de l'IVG en Pologne. Et puis on finira par un petit agenda. Et je passe tout de suite la parole à ma collègue qui va interviewer le collectif de soutien aux sans-papiers.
Alors bonjour, merci d'être venues Rose et Jean.
Bonjour.
Alors vous êtes toutes les deux membres du collectif étudiants, étudiantes étrangères, sans-papiers et solidaires. Comment s'est créé le collectif sur la fac Lyon 2, c'est ça? Et qui ça concerne? Elle se regarde en se disant qui parle en première.
Bon, du coup, c'est le collectif, ça fait suite à RUSF, les réseaux Universités sans frontières. Donc, celle-là, ils sont finis et le collectif solidaire fait juste suite à cet autre collectif et ça a commencé l'année dernière, en septembre 2015. Et ça concerne tous les étudiants qui veulent s'inscrire ou qui sont déjà inscrits à l'université Lumière Lyon 2, qui n'ont pas de papiers.
C'est-à-dire quoi, pas de papiers un peu?
Donc, là, je peux très bien vous expliquer parce que je suis dans ce cas-là. Donc, je suis dans la deuxième année de cinéma à Lyon 2. Je viens de Venezuela et je n'ai pas une visa pour pouvoir continuer mes études, même si je suis rentrée légalement. La préfecture me dénie, me renouveler mon visa.
D'accord.
Oui.
Et c'est comme ça, toi, tu as rencontré le collectif par ta situation personnelle et après, tu t'es mis à lutter avec le collectif.
Oui. Donc, dans les collectifs, il y a des différences, différents pays, des différentes nationalités. Et bon, chacun, il y a un statut un peu différent. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'attente de leur statut de réfugié. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas de papiers, parce qu'ils s'attendent à cette procédure qui est assez longue. Et ils veulent s'inscrire à l'université, et l'université ne les laisse pas s'inscrire parce qu'ils ne possèdent pas un titre de séjour. Chose qui est illégale, il faut le savoir.
Comment ça c'est illégal? C'est que l'université accepte tout le monde malgré le fait qu'il n'y ait pas de titre de séjour français.
Ce n'est pas l'université. L'université n'est pas dans les droits légaux de demander les statuts d'une personne. Tout le monde a les droits de s'inscrire à l'université. Donc ça montre juste à quel point la préfecture met la pression à l'université pour... pour les empêcher d'inscrire à des personnes qui n'ont pas un statut légal en France.
Et après, le collectif, il a été créé au sein de l'Université Lumière Lyon 2. Mais après, on essaye aussi d'élargir le réseau. Donc, pour concerner d'autres étudiants qui veulent étudier, par exemple, à Lyon 1 ou Lyon 3. Et éventuellement ailleurs aussi. Donc, voilà. C'est pas juste pour seulement les étudiants à Lyon 2, mais... dans Lyon au plus large.
Alors le collectif, moi, de ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est qu'il mène des luttes, des manifestations, des revendications, des dépôts de dossiers collectifs, et aussi il aide à la régularisation, à l'obtention de visas ou aussi de compréhension de comment marche le système français et comment faire pression sur la préfecture.
Oui.
D'accord. Et c'est quoi les luttes qui ont été menées récemment? Il y en a une qu'on a bien entendu parler en février.
Oui, donc ça c'était pour les inscriptions des étudiants sans papier à l'université. Donc en fait, en début de l'année, depuis septembre 2015, le début du premier semestre, on a fait une demande pour une vingtaine de camarades pour être inscrits à la fac. Parce qu'en fait, c'était des personnes qui sont arrivées plus tard en France en raison de problèmes dans leur pays. Et du coup, en fait, ils avaient passé ce délai pour faire une demande d'inscription à l'université. Et du coup, avec le collectif, avec plusieurs personnes, on est allé discuter avec la présidence pour faire cette demande-là. Et ça a été favorable. Donc, il y avait une vingtaine de personnes qui ont pu s'inscrire à l'université suite à cette action. Et après, donc, il y a eu d'autres camarades qui nous ont rejoints au cours de l'année. Et donc, ce qui s'est passé en février, c'était pour des inscriptions pour le deuxième semestre. Et là, c'était plus compliqué parce que la présidence nous a dit, en raison au niveau de la pédagogie, c'est compliqué pour accueillir des étudiants comme ça au cours de l'année. Alors que ça peut toujours les aider pour les prochaines années et de les aider à s'intégrer dans la société, à l'université, faire des amis, créer un réseau, tout ça. Suite à ça, en fait, on a voulu à la base les faire inscrire directement, donc tout de suite à l'université. Et ça a pas marché. Donc, en fait, la présidence nous a dit on peut accepter certaines camarades pour la rentrée prochaine. Donc là, concrètement, il y a environ 7 camarades qui ont eu cette inscription-là pour la rentrée 2016-2017.
Il faut savoir aussi que si on a mis la pression pour obtenir l'inscription de ces camarades-là, c'est parce qu'on est au milieu d'un état d'urgence et que ces personnes, ils s'attendent à leur procédure. Mais c'est une procédure qui est assez longue et que d'avoir une carte d'étudiant, ça peut les aider aussi à avoir plus de tranquillité dans la vie très précaire qu'ils sont. Et du coup, c'est pour ça qu'on mène ces luttes.
Et la dernière lutte que vous avez menée, c'était hier, où il y a eu une manifestation, vous avez appelé une manifestation rassemblement devant l'université Lumière Lyon 2, puis une manifestation pour aller ensemble à la préfecture, où il y avait une délégation qui était reçue par un conseiller du préfet, non pas le préfet en personne, mais
oui,
un de ses conseillers, ou je ne sais pas trop.
Oui, on était reçu par le chef des cabinets du préfet. Donc oui, la manifestation est partie de Lyon 2 sur le quai. On est allés tous ensemble jusqu'à la préfecture. Je dirais qu'on était 200 personnes pendant qu'on a fait ce trajet-là. Et on était une espèce de petit comité à rentrer à l'intérieur. J'étais dedans parce que moi aussi, je demande la régularisation de mon statut. Je demande juste d'avoir un titre de séjour étudiant pour pouvoir finir mes études. Et du coup, la réponse du chef adjoint du cabinet, c'est juste que nos dossiers seront vus avec bienveillance. Donc, on attendra une réponse la semaine prochaine de quand est-ce qu'on pourra déposer ces dossiers pour demander le permis.
D'accord. Et toi, ce que tu demandes, c'est un titre de séjour d'un an. C'est quoi comme il y a des statuts différents des autres demandeurs d'asile ou des personnes qui demandent des récépissés en France d'être étudiante ou c'est
Oui, quand on est étudiant, on a un récépissé qui est valable pendant un an, un titre de séjour qui est valable pendant un an. Donc,
qui est renouvelable si vous continuez les études
voilà. Oui, et si on a de bonnes notes, si on a les ressources, si beaucoup de choses.
Les ressources financières.
Mmh. Oui.
Et surtout aussi ne pas changer de projet d'études. Donc rester dans la filière dans laquelle on a commencé, d'aller jusqu'au bout.
Ça met une double contrainte par rapport aux autres étudiants.
Oui, exactement, c'est ça.
De la réussite, elle est encore plus importante, quoi.
Oui.
D'accord. Et il y a quoi d'autre que vous menez comme autre lutte dans votre collectif ? Il y a un journal, non ?
Oui, on a un journal. On explique à chaque fois des cas particuliers de personnes, la vie à vie des étudiants sans papier. On a maintenant sorti un deuxième journal.
Et moi j'avais juste une question, vous êtes combien à peu près à être actif dans ce collectif?
On est environ 200 personnes au sein du collectif. Et donc ça comprend des personnes plus actives ou en soutien. Mais dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on envoie des SMS par exemple, et il y a environ 200 personnes qui reçoivent ces messages et qui peuvent agir avec nous sur le moment.
Ouais, donc c'est quand même énorme, quoi.
Ouais, c'est pas mal.
Et ça concerne aussi, dans les 200 personnes, il y a des soutiens et des personnes concernées ou c'est...
Exactement, ouais. Donc il y a des étudiants, étudiantes en soutien. Et après, des étudiants étrangers aussi, et puis d'autres, du coup, qui sont directement concernés et qui demandent d'avoir une inscription à l'université ou un titre de séjour. Ouais. Donc c'est une mélange. Et en plus, il y a aussi des profs vacataires, des professeurs aussi à l'université.
Et vous avez fait aussi une pétition qui concernait vraiment beaucoup d'étudiants avec des nationalités vachement différentes, c'est-à-dire de tout pays. Quoi.
Oui.
Ça faisait moins. Non, il y avait combien de personnes qui étaient concernées par la pétition ?
Par la pétition de dérégularisation. Bon, il y a une cinquantaine de personnes, mais chacun avec des statuts différents. Il y a des personnes qui viennent juste de recevoir un OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Donc, il y a des personnes qui attendent leur statut de réfugié. Donc, c'est assez différent le statut de chaque étudiant qui demande cette régularisation.
Et parce que en février, la présidence vous avez vraiment mis beaucoup la pression. Elle a fait des communiqués de contre-information, disant que vous semiez un peu le désordre, etc. Et là, la situation avec la présidence, elle a un peu changé. Est-ce qu'ils vous soutiennent plus ? C'est quoi les changements qu'il y a à voir ?
Je dirais que c'est plutôt toujours pareil. Mais là, en ce moment, par exemple, il y a eu d'autres camarades qui nous ont rejoints, qui sont demandeurs d'asile et qui essayent de s'inscrire en fait pour l'année prochaine en première année de licence. Et le problème, c'est que en fait, les demandes d'inscription pour la licence 1, c'est déjà fini. Et du coup, comme il reste encore du temps, en fait, on essaye de voir la présidence pour leur demander. En fait, il y a environ 5 ou 6 personnes qui veulent s'inscrire pour l'année prochaine. Et cette semaine, par exemple, on a appelé le secrétariat du vice-président qui est en charge de l'intégration des étudiants et tout ça. Et en fait, ils nous ont dit clairement qu'il n'avait pas de disponibilité et que à partir de la semaine prochaine, il y aura un remplaçant, mais on ne sait pas qui. Et donc, en fait, c'est très difficile d'avoir des rendez-vous et difficile aussi pour nous d'y aller sans un rendez-vous et essayer de voir quelqu'un. Donc, voilà, c'est pas facile, mais on essaye de continuer, de ne pas arrêter de les demander un rendez-vous et de, voilà, arrêter pas de les contacter et tout ça.
Et il y a eu des victoires aussi pour terminer un peu sur... note d'enthousiasme et de montrer que les luttes elles servent à quelque chose où il y a des victoires ou pas de victoires.
Ah, bien sûr.
C'est 20 personnes qui sont pu s'inscrire, pour nous c'est oui. Vraiment une victoire.
Ouais. Et en plus du coup l'année prochaine il y a 7 camarades qui vont commencer leurs études. Et là, en ce moment, par exemple, c'est des personnes qui sont venues en France il n'y a pas très longtemps et du coup, qui ne connaissent pas forcément des gens sur Lyon. Et du coup, à travers le collectif, ils ont pu rencontrer des gens qui les soutiennent et ils ont pu s'intégrer plus ou moins sur Lyon. Et ça va leur aider, en fait, vraiment de continuer à se motiver pour les études, pour rester en France, pour tout ce qui est au niveau de leurs papiers. Et donc, c'est génial. Enfin, je suis très, très contente pour eux parce qu'aujourd'hui, ils se sentent assez assurés, en fait, de leur futur. Voilà.
Et peut-être c'est trop tôt pour le dire, mais peut-être mes autres 4 camarades et moi, on aura une réponse plutôt positive du préfet. On croise les doigts pour ça.
Oui, ça fait un réel réseau de solidarité et de sortir un peu de la précarité et de l'anonymat en fait, de ces situations.
Oui.
Ouais, ouais.
Bah, voilà, c'était une courte interview. Merci d'être venu.
Merci.
Merci.
Bravo pour votre lutte, elle fait vraiment plaisir en plus de vous distribuer le journal hier durant la manifestation à toutes les personnes. Et ouais, c'est assez chouette à voir de l'extérieur. Merci beaucoup d'être venu. On continue, on fait une petite pause avec un morceau de Nina Simone, une pianiste en or, avec un morceau où elle ne chante pas, il s'appelle African Mailman.
vous êtes toujours sur Lilith Martin et les autres, à l'écoute du 102.2, et on vient de faire une interview du collectif de soutien aux étudiants sans papier. Et on en profite dans la foulée pour vous rappeler qu'il existe une permanence pour les personnes qui sont en difficulté avec le séjour, donc tous les sans-papiers, quels qu'ils soient, qui se tient tous les lundis de 18h30 à 20h à la Lutine, 91 rue Montesquieu, dans le 7e. Tous les lundis de 18h30 à 20h. Voilà, et ben on va continuer notre émission. On va vous proposer un petit extrait d'une émission qui a été faite sur Radio Galère. Donc, c'est les copines du gang des gazières. Et c'est...
À Marseille.
À Marseille, ouais. J'ai dit quoi? J'ai pas précisé. Et du coup, c'est des lectures de textes qui concernent, en fait, qui sont liées au mouvement actuel et des réflexions autour de la loi El Khomri, ce qu'elle produit comme situation. Donc, il y a un texte qui est lié plutôt à la grève. Et en gros, c'est comment faire la grève quand on est isolé. Et après, il y a des lectures de textes qui concernent plutôt la situation spécifique des femmes par rapport à cette loi. Et donc voilà, on écoute ça et on remercie les copines de Marseille.
Si je suis isolée, parce que dans les manifs, là, ce qu'on peut rencontrer, c'est des personnes qui sont salariées, mais il y a aussi des personnes qui travaillent pas, en tout cas, ou dont le travail n'est pas reconnu ou légitime parce que pas de salariat. Il y a des collectifs, il y a des individus. Et il y a aussi des personnes qui sont en grève. Alors des fois, quand on est en grève dans une entreprise ou une asso, ça peut être compliqué quand on est tout seul ou toute seule. C'est un texte qui reprend, qui a été fait par des militants et des juristes, et qui reprend juste les points clés des droits, de si on a envie d'être grève et qu'on est isolé. Si tu es en CDI, tu ne risques rien à faire grève. Si ton employeur te sanctionne pour cela, il s'expose à des poursuites. Sois vigilante, les sanctions peuvent être perverses, mises au placard, harcèlement, etc. Si tu es en CDD, tu es dans ton plein droit de faire grève, mais ton employeur peut t'en décourager en brandissant la menace d'une non-reconduction de ton CDD à son terme. Si tu es en intérim, tu es dans ton plein droit de faire grève, mais ton employeur peut t'en décourager en brandissant la menace de ne plus te faire travailler ensuite. Tu es en période d'essai, tu es dans ton plein droit de faire grève, mais l'employeur peut brandir la menace de ne pas t'embaucher. Tu es apprenti, tu es dans ton plein droit de faire grève. Et si tu es en stage, tu es aussi dans ton plein droit de faire grève. Alors si tu travailles en public, dans le secteur du public, du coup, pour que tu fasses grève, il faut au moins une organisation syndicale nationalement représentative qui ait déposé un préavis de grève, ce qui était le cas pour le 9 mars, au minimum 5 jours avant le début de la grève, stipulant les revendications professionnelles, la date, l'heure et le champ géographique. Ce préavis n'est pas obligatoire pour les agents travaillant dans des communes de moins de 10 000 habitants. Et dans certains secteurs, il n'est pas possible de faire grève plus d'une certaine durée. Par exemple, on pense au secteur hospitalier. Dans ces cas-là, seulement le nombre de non-grévistes est insuffisant. L'autorité territoriale peut désigner des agents grévistes pour assurer la continuité du service. Du coup, parce que, en plus, on n'en parle pas beaucoup du secteur hospitalier, mais en ce moment, en France, il y a une situation qui fait que c'est la crise dans les équipes et dans les effectifs. Et il n'y a pas, là, si on regarde sur l'ensemble de la France, sur les derniers jours de grève, il n'y a pas grand monde qui pourrait se mettre en grève parce que manque d'effectifs et du coup, présence obligatoire d'un certain nombre d'heures pour pas que les gens meurent.
Mais en fait, il n'y a pas manque d'effectifs à cause des grévistes, il y a manque d'effectifs parce que de toute façon, il n'y a personne qui est employé dans les hôpitaux, je le ressouligne.
Oui, qu'il y a suppression d'emplois.
Dans les hôpitaux, c'est très réducteur.
Voilà.
Et du coup, on va revenir ensuite sur un ou deux textes qui parlent plus particulièrement de comment ce projet de loi il attaque aussi les femmes. Mais avant ça, on va écouter un morceau de musique.
Oui, un morceau de Nina Simone qui s'appelle Work Song.
Breaking rocks out here on the chain gang, 'cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Working, I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Holding steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to
get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. Break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shaded. Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. We'll reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go.
Vous êtes toujours à l'écoute du Gang des Gazières sur Radio Galère 88.4. Donc après ce décortiquage de la loi travail, on voulait vous lire un texte qui voilà l'analyse plus d'un point de vue féministe, d'un point de vue des femmes, et qui est un texte signé des manifestantes contre la loi travail qu'on a trouvé sur le site d'information Marseille Info Autonome. Voilà, du coup on commence à lire. Nous sommes des femmes au chômage, au RSA. Travailleuses précaires, étudiantes. Comme plein d'autres femmes, nous subissons le travail salarié et le travail domestique quotidien. La loi travail, on se la prend dans la gueule, en tant que précaire et en tant que femme. Puisqu'en plus de bosser comme caissière ou animatrice, on est chargée de produire et d'élever la main-d'œuvre de demain.
Pour commencer, quelques chiffres. 81,5% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. 30% des femmes qui ont un emploi travaillent à temps partiel, contre 6% des hommes, pour mémoire. Travail à temps partiel veut dire salaire et retraite partielle. 62% des emplois dits non qualifiés sont occupés par des femmes. 80% des salariés à bas salaire sont des femmes. Les femmes touchent en moyenne une retraite inférieure d'environ 40% à celle des hommes.
Ça en dit long. Mais ça sera jamais aussi long qu'une de nos journées de travail, à faire des ménages à 6 heures le matin pour Honnête, puis 2 heures d'attente à la CAF, encore 2 heures à faire manger les gamins, retourner chez Madame Michu pour lui arroser ses fleurs, penser à la liste des courses sur le trajet, faire du ménage chez nous, les devoirs, la bouffe.
On est aide médico-psychologique, animatrice, chômeuse, femme de ménage, infirmière, assistante sociale, en CUI-CAE. Caissière. On travaille avec les gamins et avec les vieux. On travaille dans ces secteurs dits non qualifiés, où les salaires et la reconnaissance sociale sont faibles, parce qu'ils feraient soi-disant appel à nos attributs naturels. Mais où t'as vu que j'étais née avec un balai à la place du bras et une oreille fabriquée pour écouter tes problèmes ?
En plus d'être des boulots à bas salaire, on a des horaires éclatés, flexibles, bref, de merde. Or, la force du travail détermine la forme du travail domestique. Ce qui veut dire que plus nos métiers sont précaires, plus notre vie quotidienne dans son ensemble devient impossible à gérer. On gère l'inscription des enfants à l'école. On se prend des litres de culpabilité si notre enfant a pissé dans l'ascenseur en panne. On sait qu'il faut racheter de la lessive. On console les soucis et on soigne les bobos. On pense à notre emploi du temps de demain, on fait le ménage. C'est nous qui devons gérer la CAF, on assure que notre compagnon va bien.
Ça sonne peut-être comme un état des lieux vu et revu. Eh bien, la loi travail, parce qu'elle précarise toujours plus, va aggraver encore de situations. Elle allonge la semaine de travail à 46 heures. 46 heures en plus du travail domestique, ils sont sérieux ? Elle facilite les licenciements. Allez, encore une nouvelle demande d'allocation chômage et une file d'attente pour un accueil fermé. Les heures supplémentaires sont moins payées ou rattrapées sous forme de RTT ? Super ! Des RTT en plus pour prendre un deuxième boulot. Elle supprime les 11 heures de repos d'affilée. Les patrons pourront fractionner 3 heures par-ci, 3 heures par-là. Ah, bah finalement, pas possible le deuxième boulot. Va falloir prendre une nounou. Et merde. Elle aussi, elle a un emploi du temps ingérable. C'est pour toutes ces raisons qu'on est contre cette loi. Et parce que cette loi légalise un état de fait déjà existant, qu'on ne peut pas se... Et c'est parce que cette loi légalise un état de fait déjà existant qu'on ne peut pas se contenter de son retrait.
Aujourd'hui, c'est le capital qui nous fait bosser, qui nous précarise, qui nous contraint à être des épouses, des mères et des salariés. À bas le capital, à bas le travail, pas de retrait, coupons le mal à la racine. Des manifestantes contre la loi travail. Voilà, du coup, on avait envie de vous lire ce texte parce qu'on trouvait, on le trouvait chouette, en fait, comme analyse et aussi de qu'est-ce qu'on appelle le travail, qu'il y a la partie visible du travail salarié, mais il y a toute la partie invisible du travail gratuit que doivent fournir les femmes. Après, on avait aussi une critique un peu à faire quand même dessus, c'est dans l'analyse du texte, c'est un peu comme si c'était juste le capital, le capitalisme, ou l'État qui était responsable de cet état de fait, mais en fait, c'est aussi une situation qui est le patriarcat, la domination des hommes sur les femmes, qui fait que c'est les meufs qui se tapent tout le travail domestique, l'éducation, ou alors quels, justement, boulots leur sont réservés, et qu'on trouvait ça important de préciser ça. Et voilà, de prendre en compte aussi comment le colonialisme ou néocolonialisme à un niveau économique va aussi influencer sur quel travail sont accordés à quelles femmes ou à quels hommes, etc. Et il y avait un autre texte qu'on trouvait chouette, mais bon voilà, on va pas vous le lire parce que sinon ça fait beaucoup de lecture de texte. Mais vous pouvez aller le voir sur le site de Femmes en lutte 93. Voilà, qui est un texte qui s'appelle « Précarité, isolement, harcèlement, retour au foyer, la loi travail, on la combat ». Et ce qu'on trouve intéressant, par exemple, que rajoute ce texte, c'est entre autres le fait de préciser que pour les femmes qui se retrouvent dans une situation sans papier, en tout cas sans papier régulier pour être en France, elles sont déjà doublement discriminées et soumises à la toute-puissance de leur patron par le fait de ne pas être dans une situation légale au niveau des papiers, et que les femmes immigrées et descendantes de l'immigration subissent une discrimination raciste forte aussi dans le cadre du travail. Il précise aussi que, en fait, cette nouvelle loi, elle pousse aussi les femmes en dehors du marché du travail en rendant les choses encore plus compliquées. Et du coup, c'est un peu une manière de les ramener au foyer, à la sphère familiale, à la maison. Et sur comment, en fait, en situation de crise, ça va aussi être en cassant particulièrement sur les dos des femmes que va se faire cet ajustement de la crise. Un autre truc intéressant qui est dénoncé dans le texte, c'est comment cette loi, elle renforce l'isolement des femmes et les situations de harcèlement à l'intérieur des entreprises. En rendant encore plus compliqué le fait de combattre le harcèlement au travail, y compris le harcèlement sexuel dont souffre une femme sur cinq, avec une loi qui isole encore plus les femmes à l'intérieur de leur travail et va réduire le rapport de force syndicale.
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Et merci au gang des gazières pour ce texte et ces réflexions qu'elles nous ont livrées sur la loi travail. On va compléter un petit peu puisqu'on a le plaisir d'accueillir avec nous en studio Françoise. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec Françoise, on s'est vu à plusieurs reprises, mais notamment hier au soir, place Guichard à Lyon, qui est la place en fait où se déroulent les Nuits Debout depuis une semaine.
Depuis samedi dernier.
Ouais.
On explique rapidement ce que c'est une Nuit Debout ou c'est internationalement connu.
Alors, Nuit Debout, comment dire, c'est un rassemblement citoyen qui est un peu dans le flou. Alors, c'est peut-être sa force et sa faiblesse. Voilà, tout le monde discute, il y a des commissions. Donc, à Lyon, place Guichard, on a la chance d'avoir deux amphis en arc de cercle, comme ça, qui se font face. Donc, on peut faire des assemblées générales à 1000 personnes assez facilement.
Mais des personnes qui sont bien à fond dans les Nuits Debout, ils appellent ça des agora et pas des AG. Parce que c'est une philosophie... Ouais, j'ai pas tout bien compris.
Ouais, mais... c'est vrai que c'est pas vraiment des assemblées générales au sens où il n'y a pas vraiment de décision forte. C'est vrai que c'est un peu, bon, la parole est libre, tout ça, tout ça. Et donc, au début des Nuits Debout, en fait, ils expliquent un peu où ça en est. Et puis ensuite, on se divise en commissions. Et donc, nous, on était dans une commission, il y a un groupe de discussion, où on a parlé du retrait de la loi travail. Et notamment, on a parlé des problèmes de cette loi. Et toi, Françoise, tu avais bien insisté sur cette histoire de hiérarchie des normes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit ?
Cette loi, la hiérarchie des normes, c'était que, jusqu'à présent, encore aujourd'hui, il y a un code du travail qui donne des règles minimum, c'est-à-dire que tout ce qui se fait au niveau des conventions collectives par branche, la branche de la chimie, de la métallurgie, du social, ne peut pas être en dessous du code du travail. Et puis, les négociations par entreprise ne peuvent pas être en dessous des conventions collectives de la branche. Donc c'est ça la hiérarchie des normes, c'est la base minimum pour tout salarié en France, le code du travail. Après, la convention collective dans laquelle toute entreprise se déclare et doit faire référence à une convention collective. Et après, les négociations locales. Ce qui fait que quand une personne va voir l'inspection du travail pour savoir si elle est dans ses droits, l'inspection du travail connaît le code du travail et connaît la convention collective. Et puis après, il peut connaître la convention particulière, les accords locaux dans l'entreprise. La loi El Khomri, elle veut modifier cette hiérarchie des lois et mettre en premier les négociations sur l'entreprise. Et on sait que sur une entreprise, il y a eu des exemples, on peut inviter les gens, par la menace de la fermeture de l'entreprise, à négocier par exemple, on retourne aux 39 heures, payer 35 heures. Voilà, et on rebaisse le niveau de l'accord. La loi, elle précise aussi qu'un individu ne peut pas, même s'il est rentré dans l'entreprise avec un contrat personnel, ne peut pas faire état de ce contrat si la négociation locale a décidé qu'on baissait les salaires pour tout le monde. Eh bien, cette personne aura aussi son salaire baissé. C'est-à-dire que cette hiérarchie, cette remise en question de hiérarchie des normes, est vraiment une remise en question du code du travail et de la place du code du travail en France.
Et c'est vrai que cette question de la hiérarchie des normes, elle est particulièrement importante aujourd'hui qu'il y a 5 millions de chômeurs, parce que la pression que peut exercer l'employeur sur l'employé, elle est beaucoup plus forte que peut-être si on était en période de plein emploi, on pourrait dire, bon, bah, les gens, de toute façon, ils peuvent négocier. Le MEDEF, il a tendance à dire ça, mais de toute façon, voilà, chacun négocie et tout. Sauf que quand tu sais qu'il y a 5 millions de chômeurs, t'es pas vraiment en position de force pour négocier, donc c'est un peu du foutage de gueule de dire, bah voilà,
tout à fait.
De manière totalement libre, chacun négocie avec chacun.
Des fois, ça paraît étrange pour des jeunes, par exemple, qui arrivent sur le marché de l'emploi, de se dire, mais pourquoi il y en a certains qui sont payés beaucoup plus que d'autres ? Pourquoi il y a des conventions collectives, par exemple dans la chimie, qui vont avoir des salaires nettement plus élevés que la convention collective des femmes de ménage, par exemple. Mais c'est parce que c'est des endroits où il y avait des profits, où les patrons faisaient des profits. Et les gens, quand ils se sont mis en grève dans ces secteurs-là, ils ont obtenu qu'il y ait une autre répartition des richesses, même si on sait qu'aujourd'hui, par exemple, à Lyon, il y a une grève de Sanofi, ce matin. Les actionnaires font toujours de plus en plus de pression pour avoir de plus en plus d'argent. Enfin, il y avait des conventions qui étaient quand même plus intéressantes. Voilà. C'est vrai que le poids du chômage va remettre tout ça en question.
Donc voilà, ça c'est un premier grand point. Première attaque de la loi travail contre le droit des travailleurs et des travailleuses. Il y a une deuxième grande attaque que tu citais.
Hier soir, ouais. Oui, parce qu'on avait un médecin du travail qui est intervenu dans la commission et qui expliquait, depuis 25 ans à peu près, on avait acquis qu'une personne qui avait un problème de santé, la médecine du travail se devait d'adapter un poste de travail dans l'entreprise adaptée aux problèmes de santé. Moi, je travaillais dans les hôpitaux. On a eu quand même, quels que soient les médecins du travail, toujours des recherches de postes adaptés à des gens qui sortaient de maladies, de cancers, de tous les problèmes de santé. Aujourd'hui, on veut modifier ça, c'est-à-dire revenir comme avant, c'est-à-dire demander aux médecins du travail simplement qu'ils certifient que la personne est apte au poste. C'est-à-dire pas aménager le poste pour les problèmes de santé, et ça touche particulièrement les femmes, les retours de maternité, les enfants malades, enfin, même si on peut contester cette répartition des tâches, malheureusement elle est souvent comme ça, et donc c'est grave. La deuxième chose que le médecin du travail insistait, c'est que aujourd'hui, dans les grosses entreprises, on va mettre en avant plutôt des mesures très hygiénistes, c'est-à-dire que c'est des ergonomes, des gens qui ne sont pas soumis au secret professionnel comme les médecins du travail, qui vont s'occuper de ces études de poste. Et on veut baisser le nombre de médecins du travail. D'ailleurs, ils ont diminué le nombre de gens de médecins qu'on formait depuis plusieurs années. Donc tout ça se prépare pour diminuer la place de la médecine de travail au service des travailleurs.
Et donc autour de ces deux grandes choses, on peut dire, il y a toute une série de petites mesures. Alors voilà, c'est aussi ce qu'on discutait hier, c'est que bah du coup la CGT va négocier avec le gouvernement. Donc là, ils ont enlevé une mesure de la loi travail qui était, je sais plus, que les apprentis pouvaient travailler 10 heures par jour au lieu de 8.
Bah, c'est qu'ils pouvaient augmenter jusqu'à 60 heures de travail par semaine.
Donc ça, voilà, ça a sauté, mais en fait, c'était pas bien, et c'est bien
C'était un peu plus pervers, c'était que le patron pouvait faire ça en faisant juste une lettre à l'inspection du travail, alors qu'ils peuvent déjà le faire, les patrons, faire bosser leur apprenti 60 heures, mais en faisant une demande à l'inspection du travail. Et là, c'était juste de faire une lettre.
Oui, mais du bon, enfin, ça, c'est des...
Non, mais c'est aussi pour des fois, on ne mesure pas. Par exemple, moi, je ne savais pas que les apprentis qui ont 16 ans, ils se retrouvent dans ces situations-là.
Mais voilà, enfin ça c'est des espèces de mesurettes, j'ai l'impression, qui ont été faites que pour être enlevées. On se demande, enfin c'est ce qu'on se disait un peu hier soir, on sait pas, bref. Et donc nous, ce qu'on a voté, du coup, ce qu'on on a écrit une motion qu'on a fait voter par l'Agora ou l'Assemblée, je sais pas, de nuit debout. Donc c'est qu'en fait on demandait le retrait du projet de loi et qu'on demandait aux syndicats, notamment la CGT, d'arrêter d'aller négocier, en fait, et juste de demander le retrait de la loi. Et ça, c'est le texte qui a été voté et qui va être soumis, du coup, à toutes les nuits debout.
Oui, enfin, je pense, moi, j'ai, dans la commission, quand on a préparé ce texte, je pense qu'on était aussi quelques-uns à insister sur le fait qu'on interpelle l'ensemble des organisations syndicales. C'est vrai que la CGT nationalement a un congrès qui va s'ouvrir prochainement, et que c'est important que soit mis à l'ordre du jour la préparation de l'appel à une grève générale. Voilà, on a aussi beaucoup discuté de ça, parce que je pense que dans les nuits debout, il y a des gens qui s'illusionnent un petit peu sur comment peut se déclencher la grève générale. Alors moi, je pense qu'il faut faire un appel à la grève générale, parce qu'il faut c'est le niveau nécessaire pour faire retirer cette loi. Mais la grève générale, ça ne se décrète pas. Donc il faut que dans chaque entreprise, cette question soit mise à l'ordre du jour des assemblées, parce qu'on ne peut pas se déclarer tout seul en grève générale. En général, ça n'a pas beaucoup de poids sur un lieu de travail, sur l'hôpital. Si on est tout seul en grève générale, bon, c'est gentil, mais ce n'est pas comme ça qu'on obtiendra le retrait de la loi. Donc il faut vraiment que ça soit porté par des assemblées. Donc moi, je trouve que ce qui était intéressant dans le mouvement, c'est qu'il y a des choses qui se passent sur les entreprises. Moi, je suis du secteur santé, hôpital, et aussi de l'action sociale. Donc il y a eu un congrès récemment, donc on a appelé à suivre toutes les initiatives, c'est-à-dire on a appelé l'ensemble des syndiqués, l'ensemble des gens qui nous suivaient à participer aux Nuits Debout. On a appelé les gens à participer à tous les mouvements qui étaient lancés par les étudiants, en se disant que, et bien sûr à tous les mouvements qui sont appelés par l'intersyndicale au niveau national. Donc, moi, je suis assez satisfaite qu'on ait cette ouverture dans le syndicat ou dans les assemblées où je vais. Mais ce qui est encore pas très satisfaisant aujourd'hui, c'est qu'il manque d'assemblées sur les hôpitaux, par exemple, puisque c'est là où j'essaye de suivre, pour décider de comment on prépare une grève, comment on fait un piquet de grève, comment, voilà. Et les gens viennent aux manifestations, l'ensemble des manifestations, on a un cortège qui tient la route, des slogans qui tiennent la route, une banderole, enfin on est un peu organisé, mais on n'a pas assez d'assemblée générale pour prendre en main le mouvement, et je pense que si on n'y arrive pas à ça, on va perdre sur ce mouvement. Et donc moi je trouve que c'est très important que les gens s'organisent dans le lieu de travail, comme sur un lycée, comme sur une fac, quoi, parce que Nuit debout, ça peut être qu'un moment d'échange, de partage, et ça ne pourra pas remplacer ce qui peut être fait sur les entreprises.
Claire ?
Mais justement, alors c'est une petite question provoque sur Nuit debout, parce que moi, je n'ai pas pu y aller. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. En même temps, ça fait toujours super plaisir quand il se passe des trucs comme ça, parce qu'on a vraiment l'impression que les gens ils se réapproprient une place et qu'il y a de la discussion et tout ça. Mais par rapport à ce que tu dis, moi, ça me renvoie un peu à l'effet des fois un peu naïf de ce genre d'assemblée. Parce qu'effectivement, ça ne remplace pas l'organisation sur les lieux d'action des personnes, quoi. Et du coup, ce n'est pas pour ça que faut pas le faire. Mais en tout cas, moi, il me semble que des fois, ça... En tout cas, ça berce l'illusion qu'en discutant, on va arriver à tout faire et tout produire. Et l'autre question, moi, que j'aimerais poser, mais c'est un peu lié, c'est que souvent, on voit que les luttes, elles s'ancrent sur des lieux de travail, des lieux concrets, en fait, où les gens, ils ont un intérêt commun à lutter. Et du coup, moi, ça me pose la question de comment l'alliance des précaires et des chômeurs avec les salariés, parce que c'est quand même souvent le vrai problème des luttes de travailleurs, c'est qu'en fait, y a tout un tas de personnes qui ne sont pas intégrées, de fait.
Mmh. Voilà. Moi, j'ai... Un truc à dire sur chacune des questions que tu viens d'énoncer, c'est que moi je pense qu'on manque beaucoup de culture politique dans notre génération. Moi je sais que j'ai été syndiquée à la CGT pendant un moment, c'est là que j'ai appris ce qui s'est passé en 1936, parce que moi à l'école on m'avait dit 1936, le Front Populaire arrive au pouvoir et donne très gentiment 15 jours de congés payés aux salariés. Alors je me disais, dis donc, c'est beau, la démocratie, c'est sympa, on vit dans un bon système.
C'est un peu comme la loi Veil, quoi.
Ouais, comme la loi Veil, pareil, la loi
Veil.
Un jour, Madame Veil se lève le matin, va à l'Assemblée et dit, écoutez les mecs, ça ne peut plus durer, il faut autoriser.
Arrêtez d'engrosser toutes vos femmes, comme pas.
Et puis là, voilà, à la CGT ou dans les mouvements féministes, t'apprends que avant la loi Veil, il y avait 3 manifs par semaine avec je sais pas combien de dizaines de milliers de nanas. Ah ouais, d'accord. Alors ça, personne t'y avait dit. Et pareil, 1936, que les usines n'ont plus tourné pendant je sais pas un mois ou je sais pas combien de temps ça a duré, et que c'est les patrons qui ont demandé au gouvernement de donner 2 semaines de congés payés parce qu'ils voulaient que les gens reviennent travailler. Ça non plus, on m'y avait jamais dit à l'école, donc bon. Et donc moi je vois bien qu'à Nuit debout, il y a des gens qui ont peut-être pas eu la chance d'avoir des formations à la CGT ou je sais pas, voilà. Et qu'ils ont, voilà, par exemple, ils disent, hier, en introduction, la nana qui animait le truc dit « Ah oui, on vit vraiment un moment historique, c'est du jamais vu et tout. » Alors moi, ça me faisait plaisir de voir qu'elle était autant à fond qu'elle pensait ça, donc c'est cool. Mais d'un autre côté, j'avais un peu envie de lui dire, bon, c'est historique, bon, il y a eu mai 68, il y a eu 1936, il y a eu... Voilà. Donc, ouais, moi je pense qu'on manque de culture, enfin, les gens manquent de culture politique un peu à Nuit debout. Et la deuxième question, c'est sur les mouvements de chômeurs et précaires, et c'est sûr qu'à la CGT, il y a un décrochage, même par exemple dans le secteur public, par exemple à la Poste, t'as les gens qui sont fonctionnaires, qui ont un certain âge, qui sont syndiqués, et puis t'as tous les gens qui sont en CDD, qui sont plus jeunes, qui sont pas syndiqués. Enfin, moi, je sais, on m'a raconté beaucoup de trucs comme ça, et bon, moi, pour avoir milité à la CGT précaire et chômeur pendant un moment, c'est vrai que j'ai trouvé que la tête de la CGT, et d'ailleurs, le dernier congrès, ils ont pris des dispositions pour affaiblir le pouvoir des syndicats de chômeurs. C'est vrai qu'il y a des problèmes de ce côté-là, mais c'est des problèmes de fond et qui ne vont pas se régler là pendant le mouvement, quoi.
Alors l'heure tourne. Moi, je voulais peut-être, je sais pas, commencer une conclusion sur cette lutte en disant aussi qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Par exemple, moi, je suis en contrat CDD qui est renouvelable et qui est sur une période de 8 mois. Et on nous fait souvent croire, et mes collègues, que je travaille sur Villeurbanne, du coup, il y a les restaurants scolaires aussi, il y a beaucoup de vacations, et on fait souvent croire qu'en fait, tu peux pas faire grève, mais tu peux faire grève, et c'est pas ça qui va faire que tu pourras ou pas être renouvelé dans ton secteur. Et pour, en transition aussi, pour dire qu'en ce moment, il y a des personnes, t'as dit Sanofi, est en grève, les restaurants scolaires sur Villeurbanne étaient en grève pendant 15 jours, il y avait plus de repas chauds servis tous les midis, parce qu'elles demandaient le retrait de la loi El Khomri et des remplacements valables, parce qu'elles sont elles travaillent, du coup elles se donnent pas juste à manger à leurs enfants, elles font le ménage des écoles, elles nettoient les restaurants scolaires, elles garantissent les repas chauds, elles garantissent aux enfants qui mangent, et s'il n'y a pas assez de remplacement, s'il n'y a pas assez elles doivent demander aussi des primes, et en fait si c'est pas suivi par la ville de Villeurbanne, elles peuvent juste pas assurer aux enfants de manger dans la sérénité et la tranquillité et dans la propreté. Et après, juste aussi à Mayotte, on a appris par le gouvernement sur France Info mardi matin que le gouvernement allait sur l'île de Mayotte, parce que ça faisait 15 jours qu'il y avait une grève généralisée et que c'était parti en émeute et qu'il fallait qu'il y ait des forces de l'ordre qui aillent sur cette île, parce que apparemment, selon la ministre d'Outre-mer, il y avait des minorités qui prenaient en otage une île avec des habitants et habitantes qui faisaient apparemment 15 jours de grève, mais qui étaient quand même pris en otage par des minorités violentes. Et c'est comme ça qu'on a appris que Mayotte, qui est un département d'outre-mer, du coup, qui est la France, en métropole, qui se passait ça. Et du coup, il y a un peu un début de mouvement qui est à tenir. Et la loi, elle va passer à l'Assemblée nationale début mai.
Voilà. Je vais simplement rajouter que, au niveau de tout le secteur santé, social, action sociale, où il y a beaucoup de gens dans des petites structures, tous les jours, la Fédération Santé, dans cette période-là, dépose un préavis de grève pour les jours qui suivent. Donc, c'est pas tout le temps, mais dans cette période-là où il y a un mouvement, tous les jours, il y a des préavis de grève. Donc, tout le monde peut se mettre en grève dans ce secteur-là. Alors, je dis pas dans la métallurgie, je sais pas comment ils le font. Je pense que Solidaire fait la même chose. Hein. Donc, il y a plusieurs syndicats qui aujourd'hui, au niveau de leur fédération et au niveau de la confédération, déposent des préavis de grève pour couvrir toute personne qui voudrait rentrer dans le mouvement, dans une des actions nationales ou dans des actions locales.
Super.
Alors comment il nous reste 8 minutes d'émission et on a encore plein de choses à raconter. Est-ce qu'on met de la musique ou on enchaîne
Peut-être une courte pause avant de faire une mini interview surprise.
Ouais.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués, délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, la colère. Quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, nous immobilisons. On parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère n'a que ses points nus. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution, la révolution. Quand elle unit des camarades de la...
Vous êtes toujours sur le 102.2 et c'est l'émission Chocho l'actu, Lilith, Martine et les autres. Et
on vient d'écouter Dominique Grange, Grève illimitée, un petit bout.
Et du coup, on accueille une copine du planning qui vient nous parler de la situation en Pologne par rapport à l'IVG. Alors, il y a peu de temps, donc il va falloir être synthétique. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe là-bas?
Il reste 6 minutes. Bah, c'est la catastrophe, ça peut commencer comme ça. Non, juste pour dire que le droit à l'avortement en Pologne est remis encore une fois en question. Il faut déjà se dire que l'avortement est illégal en Pologne hein, depuis 1977. Donc on pouvait avorter déjà que pour selon trois situations. Si la grossesse non désirée était issue d'un viol, s'il y avait un risque majeur pour la santé de la femme. Et le dernier, s'il y avait un danger grave pour l'embryon. Donc on oublie ces trois possibilités-là et en fait on ne pourra avorter que s'il y a un grave risque pour le fœtus et ça sera déterminé que par des médecins. Donc en gros on ne pourra plus le faire très clairement et en plus il y aura une pénalisation, enfin une répression supplémentaire puisque les médecins qui pratiqueront l'avortement pourront être condamnés à 5 ans de prison alors que c'est 2 actuellement. Donc pour faire très vite, il y a une grosse mobilisation en cours au niveau européen pour montrer notre solidarité avec les Polonaises. Il y a eu 2 rassemblements dans 167 villes européennes il y a quelques jours, voilà, donc la mobilisation va continuer. On a commencé à Lyon devant le consulat de Pologne lundi et on va sûrement remettre une date très prochainement pour continuer à les aider.
Et tu peux nous dire, vous étiez combien du coup lundi? C'était un gros truc ou
Eh ben, à notre grande surprise, nous étions 200. Très sympa. Du coup, on a un peu recouvert le consulat de Pologne d'affiches, de petits mots de soutien aux Polonaises. Et surtout, on leur a fait un joli arbre à cintre décoré qu'on leur a laissé.
Et juste pour finir là-dessus, parce qu'on fait la course à l'interview, le collectif qui se mobilise pour cette lutte-là, il y a plusieurs assos, plusieurs groupes qui sont réunis. Tu peux peut-être dire un peu qui c'est?
Ouais, alors du coup, c'est le collectif de défense de l'IVG dans le Rhône, donc qui s'est monté en 2010 suite à l'annonce de la fermeture d'Hôtel Dieu. Et en gros, ça regroupe des associations féministes, des associations des droits, des syndicats et des partis politiques.
Moi, je rajouterais que sur le plan européen, il y a un réseau contre la marchandisation de la santé qui existe dans tous les pays d'Europe et que ce réseau, il permet aussi des échanges et des informations sur toutes ces questions-là assez rapidement. On a fait, il y a 4 ans, une grosse manifestation de solidarité en Pologne contre le fait qu'en Pologne, on voulait déjà transformer tous les statuts des sages-femmes et des infirmières des hôpitaux en auto-entrepreneurs. Et donc casser tous les collectifs de travail. Donc il y a un réseau contre la marchandisation de la santé qui sert aussi à échanger sur toutes les questions qui touchent la santé et les femmes aussi.
Bah, merci beaucoup pour ces infos. Vous avez un petit truc à ajouter et sinon on passe à l'agenda. Mais on peut vous laisser un dernier mot. De toute façon, Marion, tu parles tout à l'heure aussi dans Canu Info, donc quittez pas, pour revenir à 7h, enfin vous pouvez écouter Canu de 6 à 7 aussi bien sûr, mais si vous voulez entendre plus de détails sur cette loi et la mobilisation de 7 à 8, et ben, vous allez en reparler.
Et on avait encore un autre point aussi sur comment on parlait du travail, on se disait que ça pouvait être chouette de juste faire un point sur les travailleuses du sexe, les prostituées, qui en fait il y a la loi le 6 avril qui est passée sur la pénalisation des clients et on voulait revenir dessus, pourquoi le STRAS, qui est un syndicat des travailleurs du sexe, travailleuses du sexe est contre, et d'autres associations comme Cabiria à Lyon qui est une association de santé communautaire qui est contre. Mais comme on revient dans 15 jours Lilith Martine et les autres, et que la semaine prochaine ce n'est pas des cadeaux, que des fois peut-être le soir dans les Canu Info on en parlait, on reviendra dessus, mais ceci pour évoquer aussi toutes les catégories de travail. Voilà. Et l'agenda, alors rapidement, demain à 16h, demain, c'est le 16 avril, à 14h à la Maison de la Mésopotamie, il y a une conférence en fait sur la situation en Turquie qui continue à réprimer toute contestation politique et sociale contre les populations kurdes. C'est organisé par la Maison de la Mésopotamie et le groupe antifasciste Lyon et environ, qui vous donneront une conférence sur la Turquie et le Kurdistan. Bon, on revient pas du sur ce qu'est...
Et c'est rue Mazagran, la maison de la Mésopotamie, dans le 7e.
Ouais, c'est ça. Après, il y a 16h. J'arrête pas de dire 16h parce que c'est le 16 avril. Mais là, ça tombe bien, c'est à 16h. Du coup, l'émission La Petite Cuillère, qui est une émission contre toutes les prisons sur Radio Canu, le jeudi soir de 20h à 21h, tous les 2e, 4e et 5e jeudi.
invite le journal L'Envolée, qui est un journal pour en finir avec toutes les prisons. Vous avez vu, c'est vraiment contre les prisons, hein, cette thématique. Dans le journal, en fait, il relaie des lettres de prisonniers, des revendications, il assiste à des procès, il fait des comptes rendus, et il fait des analyses sur les lois, et il essaye, en fait, de créer une plateforme un peu... Non, pas une plateforme, mais un lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre les prisons, des prisonniers à l'intérieur et puis les luttes à l'extérieur. Et c'est à 16h à la librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille. Que si c'est la librairie Terre des Livres, c'est parce que vous pouvez trouver le journal L'Envolée dans cette librairie. Et on va terminer par un petit jingle, ce que demain, à partir... il y a les 24 heures des luttes paysannes sur les ondes de Radio Canu. Ça commence à partir de 15h et voilà, tout pendant 24 heures, du coup vous calculez à partir de 15h.
Ils nous ont un peu copié dessus. Bon, en même temps, l'idée n'est pas très originale.
Et on copie aussi sur du son contre les prisons, parce qu'ils vont être rediffusés sur d'autres radios. Et c'est parce que le 17 avril 1996, la police d'État du Pará au Brésil tirait à balles réelles sur une manifestation du mouvement des sans-terre. Et du coup, voilà, l'émission des paysannes et des paysans dans la lutte des classes font 24 heures pour... faire un hommage et puis montrer que la lutte est toujours là. On écoute leur petit jingle qu'ils ont fait, puis on laisse l'antenne de Radio Canu 102.2, la plus féministe des radios, à Dancehall Social Club.
Et merci aux invités.
Merci.
À bientôt. Merci. Au revoir.
Jamais plus ils ne s'opposeront à ceux qui veulent changer cette société. Nous l'avons prouvé.
La pierre no se vende, se lucha y se defiende.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Le 17 avril 1996, une manifestation du mouvement des sans-terre au Brésil est attaquée par la police qui tue 19 personnes. Pour les 20 ans de cette journée, devenue Journée internationale des luttes paysannes, les paysannes et paysans dans la lutte des classes prend l'antenne pendant 24 heures.
Du 16 avril à 15h au 17 avril à 15h, retrouvez l'émission paysanne de Radio Canu avec au programme des discussions en direct avec des paysans paysannes, des directs avec des actions et mobilisations à l'occasion du 17 avril, des rediffusions de reportages et entretiens pour comprendre les réalités et les luttes paysannes.
Le programme complet sur le blog de l'émission blog.radiocanu.org, lutte paysanne au pluriel.